difficile. Et ensuite, on verra comment on peut avancer un peu. Donc, le sujet, c'est Yom Kippour. Et dans Yom Kippour, c'est la tshuva, et dans la tshuva, c'est le vidouille. Mais disons, pour pouvoir faire un vidouille valable, il faut faire une vraie tshuva. Sinon, c'est des mots. Pour faire une vraie tshuva, le mot tshuva veut dire revenir. La question, c'est on revient où? Et alors, on avait expliqué que bon, tout ça s'est construit sur le Nefesh HaRein, que le mal, initialement, au temps d'Adam HaRishon, il était à l'extérieur, ce qu'on appelle le Nahash. Et comme il dit, Adam et Chava n'avaient strictement aucune relation avec le mal et aucune affinité avec le mal. C'était quelque chose qui était complètement en dehors d'eux. Et le Nefesh HaChaim dit une chose étrange. Il dit, bien sûr, quand Adam et Chava ont été créés, ils ont été créés avec la Bechira, avec la possibilité de choisir. Mais de choisir le mal, pour Adam, je dirais Adam, mais c'est Adam et Chava. Hein. Mais pour Adam, enfin, ici, je devrais dire non, ce chiot, je devrais plutôt dire Chava. Mais bon. Bon, Chava, mais ça veut dire Adam aussi. Et donc, Chava, elle avait à peu près autant, si vous voulez, de possibilités de choisir le mal qu'elle en avait, que nous en avons, de choisir d'entrer dans le feu. Ça, c'est ce que dit Nefesh HaRein. Bon, mais le feu, c'est quoi? Le feu, c'est quelque chose, ça réchauffe, ça éclaire, mais c'est destructeur. Donc, la caractéristique du feu, c'est que, au fond, à l'intérieur du feu, c'est complètement vide. C'est ça que le Nefesh HaChaim veut dire quand il amène l'exemple du feu. C'est-à-dire qu'en fait, pour Adam, il y avait devant lui, pour Chava, il y avait devant eux quelque chose de coloré, de séducteur, etc., mais qui était complètement vide. Mais en réalité, cette idée de comparer le mal au feu, c'est-à-dire d'avoir autant d'envie d'entrer dans le domaine du mal que d'entrer dans le domaine du feu, c'est un peu, ça c'est ce que dit Nefesh HaRein, et le problème c'est que le pasouk ne dit pas ça du tout. Dans la Torah, ce n'est pas du tout marqué comme ça. Dans la Torah, il est clairement dit que le fruit de l'arbre connaissance bien et mal, le fruit qui était interdit, à Chava, il est apparu comme étant Nechmad, Vetov, etc., comme étant agréable, bon, utile, etc. Il est plein de qualités. Le feu, il n'a pas du tout. Le feu, ce n'est pas ça du tout. Comment Nefesh HaRein peut dire que c'est quelque chose qui est, il dit quelque chose qui est a priori complètement contraire au pasouk. Mais ici, ce qui est décrit dans la Torah, c'est comment Chava a pu entrer dans le domaine du mal, qui était un domaine qui lui était totalement étranger. Bien sûr, on ne sait pas combien de temps a duré le fameux dialogue entre que le Midrash décrit entre Chava et le Nahash. Le processus de séduction du Nahash, il a peut-être duré très longtemps. Mais surtout, ce qui va nous être très utile, c'est de comprendre comment c'est possible, quand il n'y a aucune affinité pour le mal, comment est-il possible de choisir le mal? Comment est-ce qu'on peut faire la faute, en fait? C'est compliqué. On fait une faute, c'est-à-dire on entre dans le domaine du mal à partir de rien du tout. Alors, l'explication que nous donne le Nefesh HaChaim, si vous voulez, dans cette comparaison, c'est que il existe, on va appeler ça une représentation, un tsiyur, une représentation. C'est-à-dire, la séduction, elle a fonctionné de la manière suivante. Le Nahash, il a réussi à faire en sorte, avec toutes ses paroles, etc., il a fait en sorte que dans la tête de Chava, il y a eu une représentation de ce que ce serait si elle fautait. Pas du tout qu'elle allait fauter, mais qu'est-ce que ça donnerait si elle fautait? Et cette représentation, elle a créé un lien avec le mal. Se représenter les conséquences du choix de la Avera. C'est-à-dire une représentation dans son esprit, mais une représentation des conséquences concrètes de son choix. Et c'est ça qui a fait qu'ensuite, parce que la chose existait, a existé dans le domaine des représentations imaginaires, enfin d'une situation imaginaire, c'est un secret de fonctionnement du cerveau humain, en fait, que à partir du moment où cette représentation d'une situation imaginaire se fait dans la tête, alors d'une certaine manière, elle existe. Mais elle existe un peu comme ce qu'on pense en rêve existe aussi. Ça existe, mais ça existe dans un monde qui s'appelle le monde du rêve, dans le monde de l'imagination. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Tous les désirs sont de ce type-là. On ne peut pas se représenter, c'est-à-dire on ne peut pas connaître le goût d'une pâtisserie. Vous avez un gâteau, ça n'a pas de sens de parler du goût de ce gâteau. Mais le désir, en fait, le fait d'avoir envie de manger ce gâteau, c'est que dans sa tête, je vais me représenter mangeant ce gâteau et je vais me représenter le goût. On ne sait même pas ce que c'est. Mais comme il y a quelque chose qui fabrique en quelque sorte le ta'am, le goût de la chose. Donc, faire exister la chose, le faire exister dans un certain monde. Donc, il faut se représenter la chose faite. Alors, c'est ce qui se passe dans la publicité. On vous représente ce que ce serait si vous choisissiez cette croisière, ou si vous choisissez ce robot ménager, ou si vous choisissez cette crème à tartiner, ou je ne sais pas quoi. On nous représente la chose. On la représente. Et donc, quelque part, ça fait exister un désir pour la chose. Il y a quelque chose comme une espèce de goût de la chose qui vient de notre capacité à imaginer. C'est ce qui s'est passé pour Chava. C'est quoi la séduction? C'est que il lui a représenté comment ce serait si elle le mangeait. Alors, même si c'est mensonger, à la limite, même si au début elle pense, elle était probablement consciente que ce qu'il disait était faux, parce qu'il a commencé par dire des choses complètement fausses. Il a dit « vous n'avez pas le droit de manger d'aucun arbre », etc. Quelque part, il fallait engager la conversation pour essayer, pour l'amener à se représenter les choses. Alors pour nous, c'est fondamental de comprendre ce processus de cette manière. Peut-être on peut l'expliquer autrement, mais on peut l'expliquer comme ça. Et d'expliquer ce processus de cette manière-là, ben, ça va être très utile pour nous. Pourquoi? Parce que de même que entrer dans le domaine du mal, ça va devenir possible, condition qu'on se représente la chose comme faite. Alors ça peut concrètement ensuite se réaliser. Et par conséquent, on va essayer de faire la même chose dans le processus de tshuva. Avant de faire tshuva, il faut se représenter comment ce sera quand j'aurai fait tshuva. Concrètement, essayez de le rendre aussi vivant que possible. Alors, dans les Sfarim, quand on parle d'inciter les gens à faire tshuva, si vous lisez les Sfarim de Moussa, en quelque sorte, alors on parle d'autre chose. On parle de se représenter le onesh, de se représenter la souffrance que ce sera si on ne fait pas tshuva, le Gehinnom, etc. Ça, pour il y a eu un moment, en tout cas, de génération, où ça suffisait pour les motiver à faire ce qu'il faut pour ne pas tomber dans le Gehinnom, etc., ou pas. Voilà. Ça suffisait pour motiver de faire les mitzvot ou de ne pas faire la Avera. Et la question, c'est est-ce que pour nous, ça parle encore? Est-ce que nous, ça nous parle encore? Est-ce que cette dimension de peur, de la sanction, etc., ça nous parle? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens auxquels ça ne parle pas du tout. Ça ne va pas les amener à faire la mitzvah de la bonne manière. Ça va amener à un développement de la émouna, etc. Mais la émouna, c'est pas quelque chose qui entraîne directement l'accomplissement des choses concrètement. Qu'est-ce qui doit être à l'œuvre ici? C'est ce qu'on appelle Yirat Shamaim, la crainte du ciel. Mais pas la crainte du ciel au sens du Onesh. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de gens, la crainte du ciel au sens de justement des conséquences au niveau du Gehinnom, etc., c'est plutôt paralysant qu'autre chose. Ça ne pousse pas à agir. Or, l'Yirat Shamayim, c'est quelque chose qui doit me pousser à agir. Ce n'est pas quelque chose qui doit me paralyser. Une situation paralysante de peur, bon, c'est ce qui existe aujourd'hui, je ne sais pas, en Afghanistan, c'est ce qui existait sous Staline ou sous Hitler, où il y avait quelqu'un qui pouvait décider de but en blanc de vous tuer, de vous envoyer au goulag. Bon, c'est paralysant, du coup, qu'est-ce que les gens font? Ben, on va rester chez soi, on va se cloîtrer, on ne va rien dire, on va pas parler parce que les murs ont des oreilles ou parce que les voisins vont entendre, etc. Donc c'est totalement paralysant. Mais un vidouille sans qu'il y ait de Yirat Shamayim, sans que ça débouche sur quelque chose qui m'incite à faire la mitzvah et de ne pas faire la avera, c'est pas un vrai vidouille. C'est pas une vraie confession. Donc, là aussi, on va faire la même chose, mais dans le positif, que ce qu'on a décrit d'après le Nefesh HaRaim, sur ce qu'on peut comprendre de lui dans son explication de la conduite de Chava. C'est-à-dire, je vais essayer de me représenter dans mon esprit, Salahirat Shamaim, l'accomplissement de la mitzvah. Je vais me représenter, moi, accomplissant la mitzvah. De la même manière que ça a marché pour Chava, ceux qui ont essayé ce genre de choses-là disent que ça marche aussi dans la tchouba. On ne sait pas très bien pourquoi ça nous met dans l'état en question. La chose existe de façon théorique, elle est là, comme ça, tout à coup, ça va se concrétiser. Comme si parce que quelqu'un le pense, alors la chose devient possible. Ça existe. On s'est aperçu, par exemple, après la guerre, on s'est aperçu que on a, par exemple, en Amérique et en Russie, il n'y avait pas de contact direct. On a développé les mêmes théorèmes en mathématiques. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des théorèmes qui ont un nom russe et un nom américain, par exemple. Parce que chacun dit, c'est moi qui l'ai trouvé. Ils l'ont trouvé quasiment en même temps. Les choses étaient dans l'air, en quelque sorte. Parce qu'il y en a un qui a dû le penser. C'est comme si la chose était dans l'air, du coup. Et ça s'est réalisé. Ça s'est concrétisé. Celui-là, il a écrit le théorème. Et l'autre aussi, il a écrit le théorème. Donc, quand quelque chose, pour moi, existe dans ma tête, ça existe dans mon esprit, il y a cette... Je me vois, enfin, je suis en train de faire la mitzvah. Alors, je suis vraiment dans l'état de tshuva. Je vais vraiment faire la mitzvah. Vous connaissez l'histoire de... Je raconte. J'étais au marché à Machane Yehuda et j'entendais les marchands qui criaient, chacun disait achète chez moi, c'est la meilleure qualité, etc. Il y avait les odeurs des fruits, des légumes, etc. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui vient et qui me donne un grand coup de poing. Je regarde. Le coup de poing, c'est moi. J'étais dans la Amida, j'ai dit « Slach lanu ». Donner un coup de poing sur la poitrine dans la Amida. C'est-à-dire, il était dans sa Shmoné Esrei. Et dans Shmoné Esrei, je ne sais pas si ça vous ça arrive, je ne sais pas si ça arrive chez les femmes aussi. En tout cas, chez les hommes, je vous assure, ça arrive. Commencez la Amida et vous êtes, je pense, ou bien, je ne sais pas, on fait, il y a votre... Est-ce que c'est à ce moment-là que vous faites la liste des courses qu'il faut faire? Est-ce que c'est là, on dit, là c'est tous les téléphones que je devrais faire, que je n'ai pas fait, etc. Tout ça, ça se fait pendant la Amida, très efficace. C'est-à-dire, on a une capacité de s'enfuir de... Alors qu'on a bien décidé d'être mechaben, je veux vraiment faire attention, dire tous les mots, me concentrer, etc. Et puis, ça part dans tous les sens. Comment c'est possible que ça parte dans tous les sens? Ça part dans tous les sens parce que tu n'es jamais entré dans la tuile. Tu n'as jamais commencé. Le problème, c'est tu t'es pas investi du tout dans cette mitzvah. La Yirat Shamayim, c'est faire les choses telles qu'Hachem veut qu'elle soit faite, que nous les fassions. Alors, en quoi est-ce que ça nous aide à faire tshuva? Parce qu'à ce moment-là, la Yirat Shamayim, elle te dit, voilà, bon, c'est pas convenable. Maintenant, je veux faire les choses telles qu'Hachem veut. Je peux pas même, en même temps, être investi dans des averot ou dans des choses qu'Hachem ne veut pas. Et donc, je vais faire tshuva, je vais me couper de ce que je faisais et qu'il ne fallait pas faire, et je vais m'investir, au contraire, du bon côté, en quelque sorte. Et ça, ça touche un grand problème. Ça touche le problème de être présent dans ce qu'on fait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est d'après ce que les gens qui s'occupent de ça disent, c'est qu'un des problèmes de nos générations, c'est qu'on n'est pas présent à ce qu'on fait. On ne vit pas nos actions. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que on ne vit pas ce qu'on fait? Alors ça a probablement à voir. Maintenant, c'est un peu poussé à l'extrême, mais peut-être que c'est déjà là depuis un moment. C'est le problème, quel est le statut des actions pour nous? C'est-à-dire qu'il y a une forme de mépris du geste lui-même. On est surtout concentré sur le résultat. L'important, c'est le résultat. Et Et le geste lui-même, il n'a pas beaucoup d'importance. Et à la limite, on va dans ce sens-là maintenant, dans l'homme augmenté, etc. Où à la limite, ce n'est pas du tout important de faire les choses. L'important, c'est qu'elles soient faites. Donc, il n'y a pas du tout de valeur au fait que je vais les faire. Je suis présent dans ce que je fais. Parce qu'à la limite, si j'ai un robot qui le fait, ça va aussi bien pour moi. Que ce soit une partie augmentée de l'homme, tel qu'on le dit aujourd'hui, c'est la même chose. Et donc, il y a une espèce de mépris de l'action. L'action n'a pas d'importance. L'important, c'est que ce soit fait. Alors, bon, ça se dit beaucoup sur les mitzvot positives. Donc, beaucoup d'entre elles étant liées avec le temps, donc ça concerne plus particulièrement les hommes. C'est aussi vrai dans les relations interhumaines. Et donc là, ça concerne aussi les femmes. Il y a cette idée que c'est pas très très important, l'action. Or, ça c'est complètement contraire à toute la Torah. La Torah, c'est le monde des actions. Les mitzvot sont des actions. Dans la mitzvah, l'important, c'est de faire la mitzvah, c'est pas le résultat. C'est à la limite, j'ai une mitzvah de prier, c'est pas simplement pour obtenir un résultat, c'est la démarche de prier. Le Rambam, quand il décrit la prière, je vous l'ai déjà dit souvent, le Rambam dit qu'est-ce que c'est le premier mouvement, la première chose qu'on peut dire sur la prière, c'est se tenir debout devant Hachem. On ne parle pas de parler, de rien du tout. Se tenir debout devant Hachem. Parce que ce geste-là, me tenir debout et conscient que je suis devant Hachem, c'est un maasé, c'est une action. Après, il y a l'action de parler. Je considère que parler, c'est aussi une action. Parler, c'est les mots qu'on va dire. Mais se tenir devant Hachem, bien sûr que si, il faut comprendre que se tenir debout devant Hachem, c'est presque impensable. Parce que la posture standard devant un roi, c'est de se courber devant lui. Donc à la limite, la posture standard devant Hachem, ce serait d'être complètement étendu sur le sol devant lui. Mais rien qui dépasse, quoi. À la limite, il faut toutes les têtes qui se relèvent. Et le paradoxe de la prière, c'est qu'Hachem me dit, tiens-toi devant moi, debout devant moi. C'est déjà tout un problème. Mais et cette action-là, suivie de l'action de parler, c'est fondamental. C'est ça le monde des mitzvot. C'est un monde, le monde des tariag mitzvot, des 613 mitzvot. Les mitzvot, elles ont à voir. On sait qu'il y a 248 mitzvot qui correspondent au nombre de parties du corps et 365 qui correspondent au nombre de jours de l'année solaire. Donc, si vous voulez, on est complètement enveloppé par les mitzvot, par les tariag mitzvot. Alors, aujourd'hui, on parle des gens qui sont dans leurs pensées, ils sont dans leurs idées, etc. Mais la Torah vient dire, je veux que tu sois dans les actions. C'est des actions auxquelles il faut donner leur plein sens, bien sûr. Bien entendu, c'est fondamental. Mais ce sont les actions. Il faut donner leur importance aux actions. Mais maintenant, ces actions-là, si on les regarde un peu plus près, j'ai la même mitzvah que mon voisin. Vous avez la même mitzvah que votre voisine. Sur le papier, le texte de la mitzvah est le même pour vous et votre voisine. Il est bien clair qu'il s'agit que vous fassiez votre mitzvah et pas celle de la voisine. C'est-à-dire que vous allez faire la mitzvah qui est la même que celle de la... Je ne sais pas les pronoms. Vous allez prendre challah sur le pain que vous avez fait. Votre voisine, elle a fait la même quantité de pain avec la même farine. Vous avez acheté la farine au même endroit, la levure au même endroit, etc. Vous avez le même robot, etc. Peu importe. Mais la mitzvah de challah, de prélever la challah, ça doit être la vôtre. Vous allez vous investir dans cette mitzvah. Sinon, c'est n'importe quoi. C'est nous qui sommes notre statut. Qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï? Au Sinaï, on n'a pas appris tellement. On a reçu des mitzvot. On avait déjà reçu des mitzvot avant. À Mara, on avait déjà reçu une dizaine de mitzvot, dont des mitzvot très importantes. Shabbat, Kibud Av V'Em, Paraduma, etc. Mitzvot fondamentales, on avait déjà reçu. Donc, à la limite, qu'on en reçoive 10 ou 613, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est très important, c'est qu'on est devenu metsouvé. On est metsouvé. Mais on doit être metsouvé ve'osé. On a reçu des ordres et on doit faire la chose. Osé, faire. Ce n'est pas metsouvé et penser, tiens, c'est... Jérémy m'explique que si le soir du Seder, tu penses toute la soirée à la sortie d'Égypte, etc., mais que tu ne manges pas les matzot et tu ne bois pas les herbakosot, tu n'as pas fait la mitzvah. Tu ne manges pas du korban pessah, tu n'as pas fait la mitzvah. Alors, bien sûr qu'il faut faire la mitzvah, mais pour que ça devienne votre mitzvah, il faut que vous vous investissiez dans cette mitzvah. Vous soyez à ce que vous faites. Si vous n'êtes pas à ce que vous faites, si on fait les choses du bout des doigts, quoi, quelque part, on n'a pas fait la mitzvah. On a fait un geste qui est... C'est rien, c'est pas vous. Vous allez vous investir avec votre intelligence, avec votre sensibilité, avec votre vécu, etc. Avec tout ça, vous allez vous investir là-dedans, dans cette mitzvah. Et du coup, la prise de challah par Madame X sera pas du tout la même que la prise de la challah par Madame Y. C'est deux choses. Chacune a fait sa mitzvah. Toutes les deux, la mitzvah s'appelle prendre la challah. Mais ce n'est pas du tout la même. Parce que c'est vous qui avez fait cette mitzvah. Dire que c'est vous qui l'avez faite, ça veut dire que vous vous êtes investi dans cette mitzvah-là. Donc, il faut que ce soit moi, que quelque part, ce vienne de ma... Enfin, quand je fais une mitzvah, ça doit venir de moi, la façon de faire la mitzvah. Si je prie, je fais la même amida que mon voisin. Et bien entendu, je vais mettre un ton, je vais mettre un rite, je vais mettre un investissement complètement différent de celui de mon voisin. Dans les mêmes mots, on va dire les mêmes mots. Mais ce ne sera pas du tout la même chose. Ce sont deux acteurs qui disent les mêmes mots et les disent d'une autre manière. Chacun le dit, fait les choses avec sa personnalité propre, avec tout son vécu. Et comme on l'a dit, même ces mitzvot, on doit toujours les vivre comme si elles venaient de nous être données. Ayom, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si je fais la mitzvah et que je m'investis dans la mitzvah, alors je m'investis avec tout ce qu'il y a eu entre hier quand j'ai fait la mitzvah et aujourd'hui quand je fais la même mitzvah, mais c'est une autre mitzvah, parce que mon vécu a changé. J'ai toujours, disons, la même intelligence, mais j'ai appris quelque chose, j'ai entendu, je suis dans un état de bien particulier, d'accord, spécifique, c'est mon état d'aujourd'hui, c'est dans cet état d'aujourd'hui que je fais la mitzvah. Je l'entends aussi à ma manière, comme je peux entendre aujourd'hui la mitzvah. Et je l'entends avec ce que je suis devenu depuis hier, quand j'ai fait la mitzvah hier. Ok. Elle a bien été faite. C'était bien moi qui l'ai faite. Mais aujourd'hui, je suis différent. Je suis riche de plus d'expérience, d'études, où je suis affecté par ceci, ou plus affecté par cela, etc. Et donc la mitzvah que je fais, c'est une autre mitzvah, c'est une mitzvah qui est nouvelle, chaque jour nouvelle. Mais si, quand je fais une mitzvah, je ne m'investis pas, alors je peux faire tous les jours la même mitzvah. Ça sera tout le temps la même chose. Je fais du bout des doigts quelques petits gestes dans lesquels je ne suis pas présent dans la mitzvah que je fais. Alors, en vérité, ce n'est pas du tout ma mitzvah. J'ai reçu une obligation de faire la mitzvah et je ne l'ai pas faite. Ça a été fait. Alors, mes doigts, peut-être. Mais à la limite, si c'est comme ça, ben, ça pourra bien, aussi bien se faire par n'importe quel robot. Encore, il y aura peut-être demain un robot qui va allumer les nérodes de Shabbat à votre place. Si vous n'êtes pas investi dans votre mitzvah d'allumer les nérodes de Shabbat, alors effectivement, ce sera aussi bien fait. Alors on pourra toujours discuter, est-ce que ça suffit d'appuyer sur le bouton pour qu'à telle et telle heure, le robot aille allumer les nérodes ? Est-ce que c'est la même chose ? Ok, ça n'a aucune importance, puisque ce sera fait. Une espèce de culture du résultat, quelque part. On voit bien que, par exemple, dans le début de Bechukotai, Shetiyu Amelim Batorah, ça veut dire que vous fassiez des efforts dans l'étude de la Torah, dans la pratique de la Torah. Il n'y a pas de notion d'effort si je fais ça du bout des doigts. Si je ne m'investis pas, il n'y a pas d'effort. Et pour ça, il faut valider, il faut d'abord comprendre l'importance des gestes. Si on méprise les gestes, on va dire, peu importe le geste, l'essentiel c'est que ça soit fait. Non. La Torah, ce sont des gestes qui sont prescrits. À faire d'une certaine manière avec un investissement de la personne. Mais les gestes sont importants. Je vais donner un exemple qui, c'est pas un exemple pour les femmes, mais c'est suffisamment parlant pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Il y a une mitzvah pour les hommes, il y a une mitzvah de tefilin. Comme une petite boîte noire qu'on met autour du bras, par exemple. Alors, on met sur le bras gauche. Et les droitiers, en tout cas, ils mettent les tefilin sur le bras gauche. Et donc, vous avez une petite boîte dans laquelle il y a quatre parchemins, dont un qui est, par exemple, le parchemin du premier, qui contient le premier paragraphe du schéma. Il y a trois autres parchemins. Et puis ensuite, on tourne autour du bras, autour des doigts. Voilà. Donc, c'est la main gauche en question, le bras gauche, est porteur des tefillin. Alors maintenant, la question qui se pose, quelle est la main qui est sanctifiée en quelque sorte? Alors on demande à n'importe qui dira, ben c'est la main gauche, elle porte les tefillin. Or, pas du tout. C'est la main droite qui a la kdoucha. Pourquoi? Parce que c'est la main droite qui fait le geste de poser les tefillin et de faire le nœud, etc. Ce n'est pas du tout l'état des choses, ce n'est pas d'avoir des tefillin sur soi, c'est de les mettre. La bracha qu'on fait, c'est les haniach, de poser les tefillin sur soi. Donc là, la main qui est sanctifiée par l'action de faire la mitzvah, c'est la main droite, bien que ce soit la main gauche qui soit porteuse sur laquelle vous avez la petite boîte noire, avec tout ça, c'est sur la main gauche. Mais ça sanctifie quelle main? La main droite, parce que c'est elle qui fait le travail. C'est elle qui fait les gestes. L'autre est le support. Ce qui est sanctifié, c'est ce qui fait le geste. C'est bon, c'est un exemple qui ne vous concerne pas directement, mais on comprend bien ici cette importance du geste. Donc, c'est pas du tout l'importance, c'est pas que ce soit fait. C'est pas ça qui est important. C'est de faire les choses. Depuis le Sinaï, effectivement, nous sommes metsouvés v'osé. On est ordonné et on doit faire. Alors c'est un peu lourd là, je répète beaucoup, mais parce que c'est pas du tout visiblement évident. Donc dans chaque mitzvah, pour pouvoir faire tshuva sur une mitzvah, à la limite on pourrait dire, au fond, si on ne s'est pas vraiment investi dans ce qu'on a fait, on n'est pas non plus investi dans les averot. Donc, d'une certaine manière, les averot, elles n'ont pas tellement d'importance non plus. C'est vrai, probablement. Bon, l'avéra, elle est avéra, s'il y a transgression. Mais là, si on s'occupe de l'impact, dans la mesure où la personne n'était pas investie, alors, ça a été fait avec quelle importance. Il n'y avait personne. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire. Personne s'est investi là-dedans. Donc cet investissement, qui est absolument fondamental, il commence pour arriver à s'investir dans quelque chose. C'est pas facile de s'investir dans une mitzvah. Il suffit pas de dire je vais faire la mitzvah. Comment je fais pour m'investir vraiment dans la mitzvah? À la limite, il faut faire comme Chava, dans le négatif, quoi. Là, il faut faire un positif. Il faut se représenter faisant la mitzvah avant de le faire. Quelque part, c'est, voilà, comme ça, on a mis en marche le processus. On l'a déjà fait exister dans la tête. Et du coup, il va pouvoir plus facilement exister réellement dans le concret. C'est une façon de faire, en tout cas. Pas si c'est la seule façon, mais c'est une façon de faire. Il y a une question qui se pose. C'est très bien s'investir, tout ce qu'on a dit, quand on parle d'une mitzvah positive, d'une mitzvah où il y a quelque chose à faire. Alors je vais prélever la challah, je vais allumer les nerot de Shabbat. Et comment on fait pour s'investir dans les mitzvot négatives, les mitzvot où on te dit de ne pas faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on fait? Comment on fait pour faire tshuva sur une mitzvah de l'otasé? Ne le fais pas. Ne mange pas cette nourriture interdite. Ok. Quelqu'un a transgressé, il a mangé. Maintenant, il veut faire tchouva. Comment il fait pour faire tchouva? Il ne suffit pas de dire « je ne ferai plus ». Parce qu'on a vu que ce n'était pas ça, vraiment. Comme dans la mitzvah d'assé, il ne suffit pas de faire. On ne peut pas dire « je n'ai pas fait hier, j'ai pas pris challah. Hier, je n'ai pas pris challah, j'ai mangé sans manger ». Ok, alors maintenant je ne fais plus. Maintenant je vais prendre challah. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On n'a pas fait de tshuva. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que, et c'est ce que dit le Nefesh HaChaim, c'est que ma neshama, elle est abîmée par la faute que j'ai faite. Comment se traduit ce fait qu'elle est abîmée? C'est qu'elle n'est pas à sa place. Elle est dans le domaine du rat. Elle est investie dans le domaine du rat parce que et c'est même elle qui donne sa vitalité au rat. Le rat lui-même, il n'a pas de vitalité par lui-même. Il n'est que extérieur, il n'y a rien d'intérieur. Mais alors, quand quelqu'un fait une avéra, ben, il amène sa vie. Et c'est lui qui donne vie à la Avera. Le mal en question, il est vivant, il existe vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui le fait exister. Je vous ai déjà expliqué que Le mal a été créé par Hachem. Borera, Hachem a créé le mal à cause de ce fameux principe de Zé Leumadze. Vous vous souvenez? Tout ce qui existe dans le positif doit exister de la même manière dans le négatif pour garantir l'équilibre, pour qu'il y ait une Bechira, qu'il y ait un choix possible. Il faut qu'on soit sollicité de la même manière d'un côté comme de l'autre. Mais en vérité, au niveau de l'impact, si vous voulez, quand on va dire dans un langage qu'on comprend peut-être pas exactement, mais dans les différents mondes, si on monte suffisamment, le mal n'existe plus. Par contre, il existe sous une autre forme. En tant que tel, il n'existe pas, mais il existe comme absence du bien. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, l'idée étant que pendant que j'ai fait le mal, je n'ai pas fait le bien. Donc, c'est ce temps que j'ai gaspillé en quelque sorte. C'est de ce temps-là qu'il va falloir rendre compte. Quelque part, c'est toujours un problème de combien de bien j'ai fait. Il y a le bien que je n'ai pas fait parce que j'étais occupé à autre chose, à savoir à faire le mal. Alors bon, le mal, il y a le mal, mais bon, ça c'est relativement facile à régler. Le problème qui est très difficile à régler, c'est comment compenser le temps que j'ai perdu pendant que je faisais le mal et que je n'ai pas fait de bien pendant ce temps-là. Comment faire tchouva là-dessus? Alors, il faut s'investir complètement dans le bien qu'on va faire pour comprendre. Enfin, cet investissement, il va de pair avec la prise de conscience de ce qu'était réellement le mal. Ma neshama n'était pas au bon endroit. Maintenant, il va falloir faire un travail pour ramener la teshuva, c'est le retour de ma neshama à la bonne place. On la remet en place. On remet l'élan de vie, etc., au bon endroit. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui va réparer en quelque sorte l'absence de bien. Parce que je vais remettre du bien, je vais remettre les choses en place. Alors le secret, enfin le chesed d'Hachem, c'est que ça marche. Bon, c'est très difficile de comprendre comment ça marche, mais Hachem nous a dit ça marche. Bon. Pour vous donner juste une indication, pas complète, mais sur comment ça marche, quand même, cette chose-là. Il faut se souvenir de ce que, bon, c'est une chose qu'on a dite il y a très très longtemps déjà, que la tshuva, elle a été créée avant le monde. En d'autres termes, si vous voulez, le monde a été créé dans un environnement de tshuva. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire la chose suivante. Il faut, je dois comprendre, il faut que mon explication réponde à l'interrogation, mais finalement, ce que j'ai fait est fait. Si je considère que mes actes ont un impact, alors l'impact est là. Il est là. Et comment ça veut dire? Tu vas faire tchouva, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe? Si on a tué quelqu'un, c'est pas parce qu'on fait tchouva qu'il va revivre. Alors, la tchouva, elle ramène pas toujours tout en place. Le gros exemple, c'est Adam Harishon. Adam a fait tchouva et on est resté mortel. Par sa faute, on est devenu mortel, on était immortel, on aurait dû rester immortel. Par sa faute, on est devenu mortel. Et Adam a fait tchouva et on est resté mortel. Parce que la tchouva d'Adam n'était pas complète. Avraham Avinu a travaillé sur cette tchouva pour parfaire la tchouva d'Adam. Ce n'est toujours pas encore suffisant. Quand est-ce que la tchouva d'Adam a été complète? C'est à Matan Torah. Quand les nés Israël, qui représentent Adam, etc., ont accepté la Torah, alors nous sommes redevenus immortels. Vous n'en vous souvenez pas tellement parce que ça n'a pas duré longtemps. Avec la faute du veau d'or, on est retombé dans la condition d'être mortel. Parce que la faute du veau d'or, c'est d'une certaine manière de nouveau la faute d'Adam. Bon, ça c'est pas notre sujet maintenant, mais donc voilà comment ça fonctionne. La tchouva, elle, Elle répare, mais elle ne répare pas obligatoirement complètement. Tchouva complète, oui, mais bon, suivant la faute qu'on a faite, ça peut demander du temps et des circonstances particulières pour que la tchouva soit complète. Donc, pour remettre la neshama exactement à la bonne place. C'est-à-dire pour remettre la force de vie, ma force de vie à ma place, à sa place. Si ma tchouva, si ma neshama n'est pas à sa place, et ben, donc ça veut dire que je suis donc. Quand quelqu'un a fauté, il est limité. Il est. Maintenant, pour se retrouver, pour retrouver sa capacité pleine, ramener donc la neshama à sa place, ça le processus de tshuva. Il faut d'abord avoir compris et avoir métabolisé, je sais pas, qu'effectivement la faute a entraîné que ma neshama n'est plus là, que ma neshama n'est plus à sa place. La neshama, celui qui a fauté, n'est plus à sa place. Elle est dans le domaine du mal. Elle est ailleurs. C'est dit de façon claire en ce qui concerne Chava, parce qu'on dit que le Nachash, il a mis de la Zohama dans Chava. C'est-à-dire, il y a une espèce de saleté qui colle à la peau du genre humain. Et cette saleté, elle a disparu à Matan Torah, mais elle est revenue avec la faute du veau d'or. Donc, c'est comme si, au fond, les êtres humains ne pouvaient plus maintenant naître avec la pleine puissance. Parce qu'il y a la trace de la faute. Il y a quelque chose qui reste, qui se traduit par être mortel, mais aussi, bon, c'est peut-être ça d'ailleurs. Aujourd'hui, une femme, elle ne peut pas mettre au monde un être immortel. Ce qu'elle aurait pu faire normalement. Donc, il faut mettre du sien, vraiment s'investir dans la tchouva, donc comprendre combien je suis handicapé en quelque sorte par la faute que j'ai faite. Comprendre qu'il y a une réalité. Je ne suis pas en forme, quoi, quelque part. Je suis limité par la faute que j'ai faite. Pour retrouver de cette dimension réelle de l'être humain, il faut faire tchouva. C'est-à-dire, il faut comprendre, il faut faire un travail de remise en place. Et cette remise en place, elle peut pas être faite si je m'investis pas dans cette opération. Le geste à lui tout seul, il ne va pas suffire, il faut que ce soit mon geste. Alors la question qui se pose, c'est comment on fait quand la faute est une faute au niveau du lot à assez? On a transgressé par Tahava, par exemple, par un désir mal placé. Comment on fait? Alors, en réalité, c'est presque la même chose qu'avec la mitzvah tassé. Et on peut s'appuyer pour dire ça, hein. Sur c'est un frère qui s'appelle Eben Shlema, qui rapporte les enseignements du Gaon de Vilna. Et À un moment donné, donc le Gaon explique que, de façon habituelle, lui, il y a toujours deux sortes de Yetzirah. Il y a le Yetzirah de la Tahava et le Yetzirah de la colère, c'est-à-dire. Et la personne qui a édité le Neven Shlema, il dit, parce que le gars là-bas, dans la suite, il dit que un des arguments qui est opposé, enfin, que les gens qui transgressent, en fait, disent, c'est ben, c'est impossible. Ce que la Torah nous demande, c'est trop dur. C'est pas possible. On peut pas y arriver. Alors, il explique là-bas, le commentateur, il dit voilà. Il veut expliquer pourquoi comment le Gaon voit la chose. Il dit le problème, c'est que si les gens ont des doutes, c'est-à-dire ils ne connaissent pas vraiment la halakha, mais bon, ils sont sérieux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans toute situation douteuse, ils vont être mahmir. Ils vont prendre la voie stricte. Je ne sais pas si c'est permis ou si ce n'est pas permis. Peut-être que c'est permis et je n'en suis pas sûr. Alors, je vais me l'interdire. Et il dit, enfin, le gars dit, ça c'est gravissime parce que c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Tu ne peux pas vivre une vie dans laquelle tout est toujours interdit. Alors bien sûr, ça implique qu'il faut être un Talmid Chacham pour savoir qu'est-ce qui est permis. Et bon, si on ne l'est pas, il faut demander. Il y a des endroits où les gens s'imaginent que c'est être bien pieux que d'être mahmir systématiquement. Et le gars dit, tu vas te casser la figure, c'est sûr, tu ne tiendras pas la distance. C'est impossible. Ce qui est vraiment impossible, c'est une avoda qui est toujours où il faut toujours choisir la Khumra, d'être mahmir, d'être plus strict que nécessaire, de peur qu'éventuellement ce que je veux faire ne soit pas permis. Non, tu as une obligation d'aller vérifier si la chose est permise ou pas. Donc ça, c'est fondamental. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est vraiment trop dur, parce qu'ils ne connaissent que les côtés interdits. Pour eux, tout est toujours interdit. Mais ça vient de ce qu'ils ne savent pas comment on peut faire. Très souvent, alors il y a des situations où on ne peut pas, il n'y a pas un éther pour tuer son voisin. Il n'y a pas de éther pour l'adultère, etc. Il n'y a pas, ça il n'y a pas. Mais bon, ce n'est pas en général les choses les plus... Mais il y a des hétérim souvent, mais seulement, il faut connaître. Dans les vidouim, dans les textes de vidouille, alors on dit souvent, j'ai permis ce qui était interdit et j'ai interdit ce qui était permis. Permettre l'interdit, on comprend très bien que ce n'est pas bien, mais interdire ce qui est permis, c'est aussi mauvais. On n'a pas le droit d'interdire des choses qui sont permises. Évidemment, il faut savoir si c'est permis ou pas. Alors, ou bien tu sais par toi-même parce que tu l'as étudié, ou tu demandes à qui de droit, à des gens qui ont étudié et qui, eux, te diront, ça, c'est permis, il faut. Voilà. Et donc, le problème de la transgression et donc la tshuva sur un lot assez, c'est le suivant. Dans le lot assez, je suis du côté du mal. Je suis du côté du rat. Et comment est-ce que je vais faire pour, si on a transgressé l'interdit, on est du côté du mal. Comment on fait pour faire tshuva? Comment on fait pour penser, pour imaginer la situation? Ben voilà, il faut se dire, voilà, il faut dissocier. La plupart d'entre nous ne faisons pas des averot pour mettre Hachem en colère. À l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait des gens qui transgressaient pour le plaisir ou pour de mettre Hachem en colère. Transgresse pour transgresser. J'ai aucune envie, ils n'avaient aucune envie de manger, je ne sais pas, des huîtres, mais comme c'est interdit, je vais en manger pour mettre Hachem en colère. Aujourd'hui, c'est plus ça notre problème. Aujourd'hui, notre problème, c'est je veux quelque chose. Je le désire, c'est très fort, j'en ai besoin peut-être même. Seulement, c'est le chemin que je connais pour obtenir la chose, c'est un chemin qui passe par l'interdit. Ça passe par la Avera. Alors, on va dire non, 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 mais à force de dire non, on va finir par se casser la figure et on va vraiment transgresser. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut se dire, il faut reconnaître, ok, j'ai envie de cela. On peut réfléchir, est-ce que c'est vraiment fondamental ou est-ce que c'est pas fondamental. Mais il y a des choses, on en a besoin. Non. Mon nefesh, il a des besoins. On ne peut pas... La Torah ne demande pas du tout de barricader... Ce n'est pas une stérilisation de la personne. Seulement, le travail qu'il faut faire, c'est un travail en se disant, je veux obtenir ça, et je vais essayer d'imaginer, rechercher donc, un chemin permis pour y arriver. En me disant qu'il y a beaucoup de chances que je trouve un autre chemin, qui n'est peut-être pas le chemin le plus direct, qui ne me donnera peut-être pas exactement la même jouissance que celle que j'espère de ce que donnera la transgression, mais au moins, ou la même chose, ou quelque chose de suffisamment comparable. Simplement, il faut inventer un chemin permis. Donc, c'est aussi quelque chose dans sa tête, mais le dans sa tête, ici, ça consiste à passer dans sa tête tout ce qu'on connaît, qu'on peut mobiliser éventuellement pour fabriquer de l'interdit. Un véritable permis, sur cette situation qu'on prenait dont on pensait qu'elle était interdite. Oui, ce qui est interdit, c'est le chemin en question. Mais pas le but, obligatoirement. Encore une fois, si le but, c'est de trucider le voisin, c'est pas permis. Mais si le but, c'est simplement, c'est une certaine jouissance. J'ai besoin de ça. J'ai besoin. OK. Le chemin que je connais, c'est un chemin qui passe par l'interdit. Il faut faire tchouva. C'est ce que j'ai pris jusqu'à présent. Maintenant, je vais faire tchouva. La tchouva, elle va demander que je réfléchisse, que dans ma tête, je fabrique le chemin permis. Alors, le dans ma tête, il consiste aussi éventuellement à se dire, alors, il faut que je demande à tel et tel, parce que tel et tel, je sais que lui, il saura me dire, ou elle saura me dire si ceci est permis ou si ceci est interdit. Donc là aussi, c'est un travail au niveau de la tête. Un travail de réflexion, un travail d'imagination. C'est-à-dire, se dire « je veux », mais jusqu'à présent, j'ai pris le chemin pour obtenir ce que je veux, passer par l'interdit. Alors, il n'y a pas toujours exactement ce qu'on veut. Mais souvent, à la limite, en tant que besoin, en tant qu'envie, je peux me contenter, ben ça aussi, ça marchera. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Alors, prenons la Shonara. Ça, c'est une avéra. Et donc, comment on fait Tshuva sur la Shonara? Alors, il faut se demander d'abord, si je dis de la Shonara, pourquoi est-ce que je dis de la Shonara? Quelle jouissance est-ce que j'attends du lashon hara? Si je n'attendais pas une certaine jouissance, je ne le ferais pas. J'attends un plaisir, j'attends un résultat de ce lashon hara. Alors disons que ce lashon hara, il est dit parce que j'ai envie d'être considéré comme quelqu'un d'important aux yeux d'un certain groupe. Alors la question qui se pose, c'est, en vérité, le lashon hara, c'est le chemin interdit qui m'amène à être reconnu comme quelqu'un d'important dans tel ou tel groupe. Et donc la tshuva, là-dessus, ça va être quoi? C'est de réfléchir à comment est-ce que je peux être reconnu comme quelqu'un d'important par les gens de ce groupe-là. C'est nécessaire. J'ai besoin de cette reconnaissance. On ne va pas te dire non, tu n'as pas besoin. Débrouille-toi sans ça. Non. On va commencer par chercher. OK. Est-ce que je peux obtenir quelque chose qui est cette reconnaissance, ou à peu près, ou du même ordre, etc.? Ou si c'est pas dans ce groupe-là, peut-être je peux l'obtenir dans un groupe analogue, suffisamment aussi important, et ça me donnera la même chose. Donc, est-ce qu'il y a un chemin permis? Est-ce que je peux me distinguer, être reconnu d'une autre manière? Alors, ça impliquera que je dois faire autre chose, je dois choisir un autre chemin. Peut-être que, au lieu de dire du lashon hara, peut-être qu'au contraire, je peux faire quelque chose d'important, je ne sais pas, organiser, un système d'aide aux nécessiteux ou de n'importe quoi, donner des cours particuliers à des gens qui en ont besoin, etc. Aider à la formation n'importe quoi. Il y a plein de possibilités d'apparaître comme quelqu'un d'important, d'être reconnu. Je cherche quelque chose de permis. Alors, c'est sûr que le lashon hara, c'est un chemin qui nous paraît relativement facile, parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et c'est souvent efficace, mais c'est extrêmement grave. Dans le lashon hara, il y a trois personnes qui meurent. Celui qui a dit le lashon hara, celui qui l'a écouté, et celui souvent sur lequel on a dit le lashon hara. Donc là, il faut inventer quelque chose, inventer une conduite qui me mènera au but que je recherchais quand je disais le lashon hara. Et donc, mes relations avec mon prochain. Bien sûr, on peut dire, non, mes relations avec mon prochain, elles doivent être gouvernées par le fait que j'ai en face de moi un Tselem Elohim, etc., comme moi, etc. Ok, c'est très bien, c'est la Emouna. Mais est-ce que ça nous aide, concrètement? Il y a probablement des gens pour lesquels c'est efficace. Probablement. Mais est-ce que c'est vraiment efficace pour tout le monde? On ne sait rien, mais dans la lashon hara, en général, Je sais bien que celui sur lequel on dit le Lashon Hara, c'est un Tzelem Elokim. En général, ça retient pas les personnes. C'est très élevé, c'est formidable effectivement de voir la grandeur humaine, etc. Mais de la même manière que dans la prière de penser « je suis devant Hachem, c'est tellement grand », etc. Bon, peut-être que ça t'aide pas vraiment, c'est pas de là que vont venir les paroles de la tfila, quoi. Dans Emouna, ça va aider, mais concrètement, donc il faut chercher. Simplement, la démarche, c'est de savoir que la tshuva, elle est à ce prix-là. La tshuva, elle implique une réflexion, un investissement dans « je veux obtenir ». Dans le lotassé, je veux obtenir ça, je veux obtenir cette jouissance, ce plaisir, cette situation, et il faut que j'invente un chemin qui m'y mène de façon permise. Alors, bien sûr, notre émouna, c'est qu'a priori, le chemin, il existe. Si la chose en elle-même n'est pas mauvaise, alors, il y a un chemin, normalement, pour obtenir ça ou quelque chose d'équivalent de façon permise. Et donc, le chidouche, disons, de ce que on apprend de ce Sefer Even Shlemin, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de régler le problème en étant marmire, parce que on te dit qu'il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Kolamosif Gorea. Celui qui ajoute, c'est en fait, il diminue. C'est-à-dire, tu ajoutes des interdits, tu diminues la capacité que tu auras de réussir, quoi. Tu vas te casser la figure, parce que c'est trop dur. La preuve, c'est qu'Hachem ne l'a pas demandé. Alors vous me direz, mais la Torah, elle dit qu'il faut mettre des barrières par rapport aux interdits. Et ici, je ne suis pas en train de mettre une barrière. Mais peut-être que quand on parle de barrière, de gader, ce n'est pas obligatoirement une barrière pour empêcher d'approcher. Peut-être que c'est des barrières qui vont guider, qui vont te faire dévier dans telle et telle direction. C'est pas simplement que je te barricade cette porte-là, tu pourras pas la prendre. Mais peut-être que la vraie barrière, c'est celle qui te guide vers la prochaine porte. Une porte où tu vas aussi pouvoir entrer par là-bas. Alors peut-être ça prendra plus de temps, ça sera le chemin il est moins carrossé ou je sais pas quoi, et il y a de la boue dans les chemins en question, mais on peut entrer. Une barrière, c'est pas obligatoirement quelque chose qui nous empêche d'avancer. Une barrière, c'est peut-être aussi quelque chose qui m'empêche de prendre ce chemin-là, mais qui me guide pour en prendre un autre, qui est le bon chemin qu'on me suggère de prendre. Donc, si on résume un peu, ce qu'on a vu ici, c'est que la tshuva, elle implique de prendre d'abord conscience que la faute, elle détruit, et en fait, elle me détruit. Parce que ma neshama est dans un autre domaine, elle est partie dans le domaine du mal. Et si on n'a pas conscience de ça, on ne fera pas de tshuva. Tu ne sais pas, tu n'es pas conscient que quelque chose... Pourquoi tu ferais tshuva? Tshuva de quoi? Il faut une conscience. D'abord, donc, il faut prendre au sérieux la mitzvah tassé et la mitzvah lo tassé. C'est sérieux. On est metsouvé par Hachem. Nous avons une constitution, un ensemble de lois qui nous viennent d'Hachem, qui sont impératives. Mais il s'agit de les connaître vraiment, ces lois. C'est évident que, par exemple, quand quelqu'un fait tchouva et qu'on le met Shabbat devant une liste d'interdits, il y a de quoi vous dégoûter à vie de faire le Shabbat. Le Shabbat, il n'a jamais été donné seulement comme une liste d'interdits. Au contraire, c'est une mitzvah tout à fait particulière puisque Zachor et Shamor, ça a été dit ensemble. Et Zachor, c'est les mitzvot positives. C'est la notion de Oneg Shabbat, de la jouissance que le Shabbat doit apporter. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer de la jouissance shabbatique. Il faut réserver toute la semaine, construire un Shabbat de jouissance, de oneg. Et ça veut dire qu'en fait, toute la semaine, donc il y a la Beth Shammai, Beth Hillel, etc., chacun fait comme il pense, mais ils construisent le Shabbat. Pour que le Shabbat soit réussi, il faut que le côté positif du Shabbat soit réussi. Si le Shabbat est une torture, on ne va pas le tenir longtemps. Hein. Donc il est fondamental de construire le Shabbat. Il faut réserver à tous les niveaux, que ce soit au niveau, je ne sais pas, au niveau des vêtements, au niveau de la nourriture, au niveau de, je sais pas, des lectures, des histoires qu'on raconte, dites-moi la suite, des jouets, ou je ne sais pas, etc. Tout ça, ça doit être mis en semaine, par exemple, voilà, ça, ce sera pour Shabbat. Et un Shabbat. Alors, aux petits-enfants, on leur donne des petits cadeaux à l'entrée de Shabbat. C'est les bonnes choses de Shabbat. Okay. Bon, alors, la vérité, il faut peut-être réviser ça aussi, parce que il y a trop de sucre dans ce qu'on donne, etc., dans les bonbons, peut-être faut les donner, éduquer les enfants, qu'ils puissent se réjouir avec, je sais pas, un morceau de concombre, une carotte, bon, ça, c'est un... Ça, c'est à chacun de voir ce qu'il est capable de faire avec ses enfants. Raconter que les bonnes choses de Shabbat, ce sera des choses saines et pas des junk food. C'est vrai. Non, mais et pour les adultes aussi. D'accord? C'est vrai qu'il y a des choses qu'on aime, dont on se dit, mais pourquoi je pourrais pas faire de la musique Shabbat? Pour beaucoup de gens, la musique, c'est un énorme plaisir. Alors bon, il se trouve que c'est pas possible. Donc il faut trouver autre chose qui me donne aussi le plaisir. Il faut développer le goût pour certaines choses. Dans la nourriture, vous le savez bien, on éduque un enfant jusqu'à ce qu'il développe le goût. Je connais personne qui a trouvé, disons que son premier verre de whisky était une bonne chose. Personne n'a considéré probablement que sa première cigarette était jouissante. Tout le monde a toussé. Ça s'éduque, pour le bien comme pour le mal d'ailleurs. Tout est objet d'éducation. Donc il faut y penser, il faut construire. Les choses doivent être construites. Alors, la construction, elle passe par d'abord construction dans la tête. C'est toujours comme ça. C'est, quand on dit quelqu'un est voilà, un inventeur, c'est un visionnaire, il a osé imaginer, il a osé penser quelque chose. Voilà, il faut oser dire, voilà, j'ai envie de ceci, là, maintenant, Je connais le chemin qui y mène, mais qui est un chemin interdit. Il faut oser essayer de penser un autre chemin. Ah, ce n'est pas celui que tout le monde prend. Tout le monde prend le chemin interdit. Tout le monde dit le lashon hara. Ok, c'est vrai. Mais on n'est pas obligé de suivre. On peut essayer de ne pas le dire. Ah, tu veux obtenir un résultat avec ton lashon hara? Essaye de réfléchir comment on peut obtenir ce résultat ou un résultat analogue par un autre chemin, un chemin positif, un chemin permis. Ça peut demander du temps. Peut-être qu'il faut consulter, peut-être qu'il faut se documenter, savoir comment on peut faire. Et voilà, ça sera la tshuva sur le lashon hara. Parce que sinon, dire plus jamais je dirai du lashon hara, donc tout le monde sait que c'est pas vrai. On ne peut pas, ça ne sert à rien de dire une chose pareille. Enfin, pour la plupart des gens, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens pour lesquels de dire plus jamais je le ferai, ça marche. Peut-être que c'est trop dur. Il faut se méfier de ce genre de truc. Donc c'est un travail de construction qui passe d'abord par une construction dans mon cerveau, en quelque sorte, dans ma tête. Voilà ce que on va dire là pour ce soir. Y a une question? Pas de question. Très bien.
Non, on essaie.
Pardon?
On essaie de l'imaginer justement.
Ouais. Imaginez une question.
Non, non, pas une question, mais d'imaginer comment faire.
Oui, c'est vrai. Mais c'est le but de l'exercice. Vous avez une semaine pour imaginer. Et plus encore après.
Extraordinaire.
Ok. Bonne soirée. Bonne
Bonne
chose.
soirée, Christophe.
Bonne soirée, Christophe.
Bonne soirée. Extraordinaire.
Merci.